France Inter.
Nobody wants to do business with the Americans because of it. It's a disaster for this country. So we'll sign this, and it's going to mean a lot more business for America.
Ça, c'est une grosse signature, hein, vous l'avez entendu. Bon, monologue, lundi, dans le bureau ovale. Personne ne veut faire des affaires avec les Américains à cause de ce truc. C'est un désastre pour ce pays. Donc là, on signe ce décret et ça va faire beaucoup de business pour l'Amérique. Cette fois, de quoi parle Donald Trump ? Quelle est donc cette entrave majeure à la compétitivité des entreprises américaines ? Eh bien, c'est une loi américaine. Elle date de 1977, elle interdit tout pot de vin à un fonctionnaire étranger pour obtenir un marché. Et donc, cette semaine, le président de la première économie mondiale a suspendu la loi. Le shérif ne veut plus arrêter les méchants, il veut, par tout moyen, récupérer des matériaux critiques, des infrastructures, des ports en eau profonde. Marche arrière sur l'anticorruption, quelles conséquences sur le reste du monde ? C'est une question, parce qu'avec leurs grosses amendes infligées aussi, et beaucoup, aux multinationales étrangères, les Américains pèsent lourd dans la définition des règles du jeu. Même question pour l'environnement, ça vous le savez, même question pour les programmes de diversité et d'inclusion, le shérif veut lutter contre ce qu'il appelle l'idéologie de genre. Du même pas, Goldman Sachs, Meta, McDonald's, Disney expliquent que la diversité n'est plus un critère décisif. Qu'il s'agisse de recruter, d'augmenter leurs dirigeants ou d'accepter un client, et là encore, quelles conséquences pour les filiales ailleurs sur la planète et les entreprises partenaires ? Hier, le New York Times se demandait au sujet des droits de douane réciproques si Donald Trump n'aboie pas plus qu'il ne mord. Eh bien, concernant toutes les dimensions du capitalisme dit « responsable », Donald Trump a déjà mordu et ce qu'on ne sait pas encore, c'est à quelle profondeur.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue dans le magazine d'économie où on la discute comme on la vit. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue, je viens de le dire. Céline Hila et Hélène Bisio, les réalisatrices. Joseph Ascal, Emma Bouvier, Raphaël Rousseau qui signe les mixages. Et Juliette Petit nous accompagne ce matin à la technique. L'invité de ce samedi 15 février, c'est la directrice générale d'Orange, Christelle Edeman. On va parler de notre monde numérique en mutation, bientôt en 6G, déjà augmenté par l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, elle y était, Christelle Edeman, à ce sommet international de l'IA. On en parlera vers 9h40. Savez-vous que le réseau 2G va s'éteindre à partir de la fin de l'année. Et la 2G, elle permet encore de passer des appels, y compris sur de vieux appareils et y compris dans les cabines d'ascenseur, vous savez, pour appeler le technicien quand c'est en panne. Quels enjeux économiques, environnementaux derrière ce changement de technologie ? Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Madame Vie au boulot, bonjour.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Alors, grâce au progrès technologique, il y a le travail à distance, voilà une transition. Mais quelles sont les limites du don d'ubiquité ? On a adoré la question de Pierre, il vous a laissé un message.
Oui, Pierre voudrait pouvoir télétravailler en marchant dans la forêt pendant les visios. Son employeur n'est pas du tout d'accord. Faut-il télétravailler assis ? Telle est la question.
Ouais, et la réponse, c'est juste avant 10h. Mais d'abord, l'actualité. Nous la passons au tamis avec l'économiste Éric Heyer. Salut Éric.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Et en face de vous, mon confrère Marc Vigneault. Salut Marc.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Journaliste au quotidien L'Opinion, vous êtes spécialiste de la politique économique et de la conjoncture. Alors ce matin, on va essayer d'expliquer ce qui semble vraiment contre-intuitif dans les chiffres. On a eu cette semaine le taux de chômage au sens du BIT, et il est en baisse. Et deux semaines plus tôt, nous avions la très forte augmentation du nombre de chômeurs. C'était ça l'actu. Alors comment va réellement le marché du travail ? C'est notre débat.
À l'instant, l'INSEE dévoile ses chiffres du chômage au quatrième trimestre 2024, en légère baisse de 0,1 point à 7,3% de la population active.
Des chiffres qui surprennent, car plusieurs indicateurs faisaient craindre une légère hausse. Le nombre record de défaillances d'entreprises, la multiplication des annonces de plans sociaux, ou encore la très forte hausse du nombre de chômeurs inscrits à France Travail.
Quand le chômage augmente dans un premier temps, ce n'est pas parce qu'il y a des licenciements et que les gens perdent leur emploi, c'est parce que les embauches s'arrêtent.
Bertrand Martineau, expert associé à l'Institut Montaigne.
Et qui est plus que proportionnellement concerné par le problème des embauches? C'est les jeunes, puisque par définition, il y en a beaucoup qui arrivent sur le marché du travail.
Le taux d'emploi des jeunes est en baisse.
Catherine Vautrin.
Et ça, c'est un sujet majeur.
Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.
En France, aujourd'hui, nous avons deux sujets, un taux d'emploi des jeunes et taux des seniors qui sont plus faibles que la moyenne européenne. Et ça, c'est très important. Nous avons, et on le sait, sur le territoire un certain nombre de fermetures d'entreprises. Et France Travail permet d'accompagner ces personnes pour maintenir leur employabilité.
Rappelez-vous, à l'automne, on échangeait beaucoup sur les plans sociaux qui arrivaient.
Denis Ferrand, économiste, directeur général de l'Institut Rexecode.
Mais ça fait un an et demi que l'investissement des entreprises a calé. Et donc, vous avez une sorte de séquence qui s'est installée. Dans un premier temps, les entreprises ont restreint leurs dépenses d'investissement. Les trésoreries ont continué de se dégrader. Et donc, on passe dans la deuxième étape, qui est celle de la correction, cette fois-ci, sur le registre de l'emploi.
Nous pensons effectivement qu'il y aura une montée du taux de chômage entre 7,5% et 8% dans l'année qui vient. Hein.
François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France.
J'appelle juste l'attention qu'ensuite ça devrait rebaisser avec une reprise progressive. Pourquoi ? Parce que comme il y a moins d'inflation, ça fait du pouvoir d'achat dans l'économie et donc de la consommation. Et ça, ça devrait aider la croissance et l'emploi.
Quand les chiffres deviennent contre-intuitifs, on a une arme absolue, on n'arrête pas l'écho, on se tourne vers Éric Heyer. Éric, comment se fait-il que le BIT, le Bureau international du travail, semble dire l'inverse de France Travail qui comptabilise les chômeurs ?
Oui, alors c'est vrai. France Travail ne comptabilise pas les chômeurs, il comptabilise les demandeurs d'emploi. Donc vous pouvez être demandeur d'emploi et pas chômeur. Alors chômeur, c'est vrai qu'il faut s'intéresser à la définition de ce qu'on appelle chômeur, c'est pas intuitif. Alors dans ces cas-là, on se retourne vers le BIT. Et le BIT, c'est un organisme qui est rattaché à l'ONU et qui est à Genève et qui a justement son rôle d'harmoniser les concepts et la définition sur le travail, l'emploi et le chômage. Et c'est quoi ? La définition du chômage au sens du BIT, c'est une personne qui a plus de 15 ans, qui n'a pas travaillé, qui est immédiatement disponible et qui recherche activement. Et donc, vous voyez, ça, c'est trois définitions très strictes avec une méthodologie. La méthodologie, c'est une enquête, une grosse enquête que l'INSEE réalise. Et donc, l'intérêt de cette définition, c'est que tout le monde a la même. Et donc, si vous voulez vous comparer dans l'espace et dans le temps, il faut prendre la définition du chômage. Alors que France Travail, lui, se dit, tiens, je ne regarde que les inscrits, ceux qui viennent chez moi, et j'essaie de les classer en catégories, mais s'il y a une décision de radiation plus ou moins forte, s'il y a une mesure, ça va changer la méthodologie. Et vous voyez pourquoi ça a augmenté ce trimestre
il y a 15 jours, les chiffres, il y a 15 jours,
de fin janvier. C'est uniquement parce qu'ils ont changé le formulaire de la façon de s'inscrire. Et donc, quand vous changez un formulaire, ça change les chiffres. Donc, vous voyez, pour un chercheur, il ne faut surtout pas regarder ces données au sens strict parce qu'il n'y a pas de continuité, d'accord ? Et sa mesure, c'est extrêmement intéressant comme élément, mais ce n'est pas le chômage, d'accord ? Et donc ensuite, il faut regarder le BIT et comprendre qu'en fait, il y a les bonnes baisses du chômage et les mauvaises baisses du chômage. Vous voyez, la bonne baisse du chômage, c'est lorsque un chômeur a retrouvé un emploi. Ouais. Et donc là, ce que nous dit le BIT, c'est non, le chômage baisse, mais pour des mauvaises raisons. Parce que ces chômeurs-là n'ont pas retrouvé un emploi. Non, on a bien détruit des emplois. Et là, c'est bien la cohérence entre toutes les sources. C'est qu'on a détruit des emplois. Lorsque vous détruisez des emplois, c'est très rare que le chômage baisse. D'accord ? Il ne baisse que parce que des personnes se sont découragées. Et donc, c'est ce que nous indique le BIT. C'est-à-dire que globalement, le chômage a baissé, mais on a détruit des emplois. Et donc, c'est la population active qui baisse. Et c'est ce qu'on appelle le halo du chômage. Les personnes qui sont pas complètement au chômage et donc ils sont découragés. Ça y est, la situation s'est tellement retournée, ça fait tellement longtemps que je suis au chômage, allez, je ne me considère plus comme chômage. Et là, c'est une très mauvaise baisse du chômage.
Marc Vigneault, est-ce qu'Éric Heyer a fait correspondre ce que vous voyez sur le terrain avec les entreprises, avec les chiffres ? Est-ce que ces destructions d'emplois, c'est ça que vous voyez aussi ?
On le voit aussi dans d'autres statistiques de l'INSEE. On voit que, par exemple, dans le secteur privé, au dernier trimestre 2024, le secteur a détruit 50 000 emplois à peu près. Donc, il faut regarder plusieurs indicateurs pour savoir comment va le marché du travail. Et effectivement, on a perdu 50 000 emplois au quatrième trimestre. trimestre. Et souvent, quand l'activité va pas bien, on dit que le chômage baisse. Augmente, avec un décalage de quelques mois, parce qu'il faut que le temps, que les entreprises adaptent leur main-d'œuvre, il faut que ça se diffuse dans l'économie. Et donc, il est très probable que dans les statistiques au sens du BIT, on voit non seulement du découragement, mais on voit aussi une remontée réelle du taux de chômage dans les prochains mois, on va en parler.
Alors, ce qu'on a, nous, dans l'actualité, sont les entreprises qui baissent le rideau, qui font des plans sociaux. Et il y a quand même, Eric, juste pour qu'on soit clair, il y a quand même encore, évidemment, des entreprises qui embauchent. C'est le solde de tout cela qui devient négatif. Et c'est ça, la bascule.
Exactement. Vous voyez, à peu près chaque jour, il y a à peu près 10 000 contrats qui sont signés et à peu près 10 000 contrats qui sont rompus. Alors là, on est dans une période où il y a un peu moins de contrats signés que de contrats rompus. C'est pour ça qu'il y a des destructions d'emplois. Marc vient de le dire, la dernière statistique, c'est 50 000 destructions d'emplois dans les salariés du privé, hein, d'accord ? Donc on n'a pas parlé ni du public ni des non-salariés. Et aujourd'hui, peut-être que c'est pas que la conjoncture, c'est-à-dire qu'on a vécu pendant 5 ans avec un marché du travail qui se portait trop bien. C'est-à-dire qu'on a créé énormément d'emplois alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités. Et donc le gouvernement va dire on a enrichi la croissance en emplois, mais vous voyez, cette phrase qui sonne positive, veut dire aussi la productivité a baissé. Et là, ça sonne beaucoup moins positif. Et donc là, les entreprises nous disent, on a fait effectivement beaucoup de rétention de main-d'œuvre, on a gardé beaucoup plus longtemps nos salariés par des mécanismes d'activité partielle ou par l'inflation, mais maintenant, on ajuste l'emploi à l'activité. Et là, malheureusement, ça va faire des destructions d'emplois relativement fortes au cours de l'année 2025. On est sur à peu près 150 000, 180 000 destructions d'emplois. Au moment où la population active continue à augmenter, le chômage ne peut que augmenter.
Donc on sera sans doute à 8% à la fin de l'année.
C'est à peu près ça. La Banque de France dit, je crois, 7,8% à la fin de l'année. Donc on est autour de 8%. Après, on peut se battre sur 0,1, 0,2 points de taux de chômage en fonction des hypothèses. Mais oui, c'est de l'ordre de ça.
Mais oui, je voulais revenir sur la politique de l'offre. Le marché du travail qui s'est porté trop bien.
Il y a une étude assez intéressante de la Direction générale des entreprises qui est parue récemment, qui montre que, effectivement, pendant le Covid, on avait eu moins de faillites d'entreprises que ce qu'on aurait dû avoir. Et donc là, on constate une très forte augmentation des faillites. Donc évidemment, ça contribue à détruire de l'emploi. Mais ce que montre la Direction générale des entreprises, avec une étude assez sérieuse, c'est que pour l'instant, on est encore essentiellement dans la phase de rattrapage. Et c'est-à-dire qu'effectivement, on corrige ce que Eric Heyer a pointé, c'est-à-dire qu'on avait une baisse importante de la productivité, les entreprises avaient peur de ne pas pouvoir réembaucher si elles se séparaient de leur main-d'œuvre, et donc quelque part, elles ont fait de la rétention de main-d'œuvre, et donc on est en train de corriger. On a quand même un taux de chômage qui va remonter, mais qui va remonter quand même, qui n'est pas du tout à des niveaux qu'on pouvait observer fin 2019. Donc, il faut quand même ne pas être trop alarmiste. Quand la conjoncture ne va pas bien, quand on a une faible croissance, le chômage remonte toujours un peu. La question, c'est de savoir, quand l'économie va repartir, est-ce qu'on va à nouveau buté sur la barre qui est à peu près de 7%, dont Eric, je crois, rappelle souvent qu'elle avait été atteinte en 2007 et que finalement, elle n'est pas tellement meilleure qu'avant. Donc, est-ce qu'on va encore buter sur ce taux de 7% ou est-ce qu'on va arriver à passer nettement en dessous ? Est-ce que les réformes qui ont été menées depuis 2017 permettent de tendre vers le plein emploi, même si, évidemment, pour l'instant, on en est loin, le plein emploi défini par Emmanuel Macron, de façon un peu arbitraire, comme à peu près 5% de taux de chômage.
Non, mais au-delà de ça, quand même, au-delà de la conjoncture qui ralentit et qui pourrait expliquer effectivement la hausse du chômage, je pense que ce qu'il faut, et on n'a pas la réponse encore définitive, c'est jusqu'où la productivité va remonter. On a perdu à peu près, en tendance, 5 points de productivité. Est-ce que ces 5 points de productivité sont perdus à jamais ou est-ce qu'on va les rattraper petit à petit ? Parce que si on doit les rattraper, même avec un peu de croissance économique, il y aura des destructions d'emplois. Donc ce n'est pas que la conjoncture qui va l'expliquer, c'est est-ce qu'on va regagner les 5 points de productivité perdus, qui sont liés effectivement à la zombification de l'économie, le fait qu'on ait maintenu beaucoup d'entreprises non profitables, parce qu'on a fait beaucoup d'apprentissage, parce que le coût du travail avait été légèrement baissé, puisque les salaires avaient été en dessous de l'inflation. Donc toutes ces questions-là sont encore en suspens. Et donc si on devait les rattraper, alors là on dépasserait largement les 8% de taux de chômage. Donc c'est vraiment, encore une fois, la face cachée de tout cela, c'est que si on regagne en productivité, les entreprises vont pouvoir verser des salaires bien supérieur à l'inflation, et donc on aura une inégalité sur le marché du travail. Ceux qui gardent leur emploi, qui vont gagner en pouvoir d'achat, et ceux qui le perdent avec la réforme de l'assurance chômage, qui vont perdre en pouvoir d'achat.
Moi, je crois que quand même, on ne peut pas dire qu'enfin qu'on soit parvenu à enrichir la croissance en emploi, c'est-à-dire qu'on ait créé des emplois, ce que cherchaient tous les gouvernements finalement, c'est qu'un phénomène négatif. Moi, je pense qu'il y a dans certains secteurs, par exemple dans l'aéronautique, quand il n'y aura plus de contraintes du côté des chaînes de production, des pièces qui n'arrivent pas, etc., on pourra regagner en productivité par le haut. On utilisera enfin la main-d'œuvre qu'on a conservée parce qu'on considère qu'il ne faut pas supprimer les ingénieurs, les postes d'ingénieurs, les postes de production, tant qu'on ne peut pas produire suffisamment. Mais si on arrive à reproduire suffisamment, on va regagner en productivité, et ça se fera un peu par le haut. Donc il faut regarder secteur par secteur. Effectivement, sur certains secteurs de l'économie, on a vraiment perdu en productivité, on a du mal à savoir exactement pourquoi, et donc ça va détruire des emplois à court terme. Après, il faut vraiment s'intéresser
Marc,
à long terme.
Il faut quand même savoir qui a payé ces pertes de productivité. C'est-à-dire, quand vous avez une chute de productivité, il y a bien quelqu'un qui doit le payer. C'est soit les salariés avec des salaires en dessous de l'inflation, soit les entreprises avec des marges qui baissent, soit les finances publiques. Ce que l'on a vu depuis la crise, c'est que c'est les finances publiques qui l'ont financé, avec les PGE et avec les aides aux entreprises.
Les prêts garantis
d'État. Et avec l'apprentissage.
Ah oui,
et là, ils nous disent, c'est fini. Donc, les 6% de déficit, c'était ça. Soit, c'était aussi les salariés, parce qu'ils ont eu des salaires en dessous des prix, ils disent, c'est fini. Et donc, aujourd'hui, vous voyez, les entreprises qui disent, mais non, moi, les marges, je ne vais pas les baisser. Donc, je vais ajuster l'emploi. Donc, attention au retour de bâton qui risque d'être très élevé.
Alors, justement, sur les politiques publiques qu'il faut ou faudrait mener aujourd'hui, on a en effet les entreprises qui disent que ce n'est pas le moment d'alourdir, ça, c'est le budget, c'est votre domaine, Marc, leur fiscalité. Et puis, on a des coupes, et notamment plus de 4 milliards dans le budget du ministère du Travail. Alors, il y a, là, par exemple, en effet, l'apprentissage qui est concerné. Est-ce que tout ça est pertinent ?
Évidemment, normalement, on ne coupe pas dans les budgets de façon contracyclique. C'est-à-dire, quand ça va mal, on essaie de ne pas trop couper dans les budgets. Mais ce qu'il faut quand même prendre un peu de recul, c'est-à-dire que quand on regarde le budget du ministère du Travail depuis 2019, en euros constants, c'est-à-dire même en tenant compte de l'inflation, il est toujours en hausse, en fait. Donc, on subventionne, par exemple, toujours plus l'apprentissage qu'en 2019. Donc, ça veut dire que si on a développé une grosse politique d'apprentissage, bah, peut-être que quand on a passé les pics de crise, on avait peur de cette génération de jeunes sacrifiés sur le marché de l'emploi au moment du Covid, etc., peut-être qu'on peut quand même ralentir. On a suffisamment dit dans cette émission qu'on subventionnait beaucoup l'enseignement supérieur
l'apprentissage, etc. Eric Ayer, vous êtes d'accord sur l'apprentissage?
Non,
qu'il y a aussi les contrats aidés,
oui,
les emplois francs,
oui,
la formation.
L'apprentissage, oui, mais l'apprentissage ciblé. Là, on voit bien qu'on met à peu près 25 milliards sur l'apprentissage, alors qu'on voit que le bond de l'apprentissage, effectivement, il y a plus de 1 million d'apprentis, c'est à deux tiers lié à des jeunes qui ont un bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Non, il faut le cibler sur les jeunes qui sont déscolarisés, il faut le cibler sur des jeunes qui n'ont pas de diplôme. C'est eux qui ont du mal à trouver un emploi et qui font le chômage structurel.
Oui, mais là, l'argument du gouvernement, c'est de dire si on veut donner cette culture de l'apprentissage en France, est-ce que si on le fait que sur les métiers peu qualifiés, etc., on restera dans une vision l'apprentissage c'est vraiment pas terrible,
mais
c'est
pour des gens qui arrivent mal. Manœuvre budgétaire,
oui, bien sûr, c'est ce que je disais, il faut adapter les dispositifs, même si ça ne va pas très très bien, et les crédits du ministère du Travail sont toujours en hausse par rapport à 2019, donc je crois qu'il y a de la marge pour les coupes de 500 postes dans Pôle emploi qui n'auraient pas été très pertinentes, ont été annulées dans le budget parce que le contrat d'engagement jeune, le problème, c'est qu'on ne tient pas les politiques longtemps. Le dispositif phare d'Elisabeth Borne qui devait insérer les jeunes sur le marché du travail, c'est vrai qu'il est raboté, et ça, c'est un peu embêtant parce que, justement, c'est les jeunes qui ont peu de qualifications qui ont du mal à trouver un emploi.
Allez, le mot de la fin, Eric.
Au-delà des jeunes, des NEET, ceux qui n'ont absolument aucune qualification, la meilleure politique de l'emploi, c'est la politique du logement. Si vous ne réglez pas le logement, vous ne réglez pas les problèmes de mobilité et des problèmes d'appariement du chômage. Si vous ne réglez pas le logement, vous ne réglez pas le fait qu'il y a du déscolarisation des enfants, le mal-logement qui est source d'inégalités scolaires, source de mauvaise intégration des parents sur le marché du travail, source de maladies chroniques et donc d'absence au travail. Donc la politique du logement devrait être centrale si vous voulez régler le problème du chômage en France.
Parfaitement d'accord. Et l'enseignement supérieur, les formations courtes et qualifiantes et qui soient adaptées au marché du travail. On met beaucoup trop de gens dans des filières qui débouchent sur absolument rien et qui génèrent de la frustration et du déclassement.
Du débat et des solutions. Merci Marc Vigneault, Eric Ayer.
Real decreto ley para la ampliación de derechos de
industrialización en
unemployment and lower job creation.
Maintenant qu'on y a cette économie.
À présent, l'économie comme elle tourne ailleurs. Deux mois après la chute du régime Assad en Syrie, un nouveau gouvernement est annoncé pour le 1er mars, dans 15 jours. Combien d'exilés syriens vont décider de faire le chemin retour ? Pour certains pays, ce sujet est aussi un sujet économique. Ce matin, nous partons en Turquie.
Si les Syriens de là ayrılırsa, ciddi anlamda bir işçi problemi yaşanacak. Çünkü şu anda tekstilde çok yetişen, özellikle bizim branşta yetişen Türk işçisi çok az. Gittiğinde ciddi anlamda bir sıkıntı olacak.
C'est le directeur d'une entreprise du textile de Gaziantep qui parle à nos confrères de l'AFP. Et Ali Gözcü dit « Si les Syriens quittent la Turquie, il y aura un grave problème de main-d'œuvre car aujourd'hui, il y a très peu de travailleurs turcs formés dans notre branche. » Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
Marie-Pierre, vous êtes l'envoyée spéciale permanente de France Inter en Turquie. C'est l'un des plus grands producteurs textiles de la planète. Et aujourd'hui, nombre de ses salariés sont donc des exilés syriens. Est-ce que tout le secteur textile est inquiet chez vous ?
Écoutez, oui, hein, c'est un secteur qui est déjà frappé par la très forte inflation, par les droits de douane sur les importations, notamment de coton égyptien. Vous savez, la Turquie importe du fil, mais aussi d'autres matières premières pour son industrie du textile. Et voilà donc qu'elle risque de se voir privée d'une main-d'œuvre à bas coût qui fait tourner le secteur. Ils sont plusieurs centaines de milliers de Syriens à travailler dans le textile, notamment dans une myriade de petits ateliers dans le sud-est, 14 heures par jour en moyenne, 6 jours sur 7, pour un salaire d'environ 20 000 livres turcs, c'est autour de 530 euros. Alors, combien sont-ils ? Eh bien, les chiffres officiels n'existent pas. En 2023, un peu plus de 100 000 permis de travail leur avaient été délivrés, mais la plupart de ces ouvriers sont employés dans le secteur informel, comme l'on dit, c'est-à-dire sans être déclarés. Et depuis une dizaine d'années qu'ils sont installés en Turquie, Alexandra, ils ont de fait remplacé la main-d'œuvre turque. Ils sont moins payés et ils disposent d'un vrai savoir-faire. Le textile syrien était très réputé. Alors déjà, de premiers ateliers ont dû fermer avec le départ de leurs ouvriers syriens. C'est encore très embryonnaire, hein. Mais ce mouvement, s'il devait s'amplifier, eh bien la Turquie serait en difficulté parce que le secteur textile, c'est environ 10% du PIB turc.
Les exilés syriens ont donc l'espoir, pour certains, la tentation du retour. Mais Marie-Pierre, est-ce qu'on sait dans quel état est l'économie de la Syrie ?
Écoutez, elle est réduite en cendres. Hein. 14 années de guerre et de bombardements massifs ont détruit la structure industrielle du pays. Alors, si de très nombreux Syriens qui sont ici en but à un fort racisme, hein, s'ils rêvent de retour, ce n'est sans doute pas pour tout de suite. Ils n'ont plus de maison, pas d'emploi, de l'électricité et de l'eau simplement quelques heures par jour. En Syrie, les conditions de vie y sont très difficiles, sans oublier l'insécurité. Et puis quand on a une famille, c'est encore plus délicat. Alors, le secteur textile turc souhaite toutefois, se préparer à cet éventuel départ, il envisage des partenariats en installant des usines de l'autre côté de la frontière. Certains ici rêvent même d'un espace de libre-échange pour continuer à exister.
Marie-Pierre Véraud avec nous en direct d'Istanbul. « 9h35 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, la directrice générale d'Orange sera mon invitée. On va parler des forfaits, de l'intelligence artificielle, de la fibre, de la 5G, avec Christelle Edeman. Mais d'abord, parlons de ce réseau 2G. C'est celui qui assure les transmissions de certains appareils équipés de cartes SIM, la machine à café du bureau, me dit-on, comme aussi les boîtiers de téléassistance pour les personnes âgées ou d'alarme pour les ascenseurs. » À la fin de l'année, la 2G va commencer à disparaître. Il va falloir migrer vers des systèmes en 4G ou 5G. C'est le moment de s'interroger sur les effets économiques et environnementaux de ce changement. Alors on sort du studio, rendez-vous à Montreuil, à l'est de Paris, dans le quartier populaire du Clos français. Nous entrons avec notre reporter Anaëlle Verzo dans une tour de 17 étages. Vous imaginez l'importance de l'ascenseur, hein ? Et puis flûte, il est en panne.
Vous pouvez entrer.
Bonjour. Ah, une dame qui arrive, qui a des béquilles.
Bonjour madame.
J'habite au sixième étage.
Au sixième étage.
Au sixième étage.
Mais comment vous faites avec vos béquilles ?
Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ça fait presque un mois et demi, bientôt, que je fais l'opération du genou.
C'est la galère.
Vous habitez à quel étage ?
17 étages.
Vous faites les 17 étages ?
Ben oui, 3-4 fois par jour.
Et votre prénom ?
C'est Afida.
Fouad. On dit qu'ils ont réparé, mais le même jour qu'ils ont réparé, ça tombe en panne.
Et vous êtes déjà retrouvé coincé à l'intérieur ?
Oui.
Moi non. Ma fille, oui. Mon épouse, oui. Ma fille, à 11h30 du soir, à 23h, elle a été coincée, 1h30 presque.
Est-ce qu'elle avait appuyé sur le bouton alarme ?
Elle a appuyé, tout ça, mais oui, attendez, patientez, on va intervenir, mais il n'y a pas d'intervention, jusqu'à 1h30. Figurez-vous, vous êtes à l'intérieur 1h30. Et quand elle est sortie, elle était toute jaune. Elle a eu la peur de sa vie.
Ben, évidemment, les problèmes vont s'aggraver.
Alors Noah, je peux vous laisser vous présenter.
Donc je m'appelle Noah Tefrit et je suis la présidente du collectif Ascenseur en colère. Donc vous avez la 2G qui s'arrête en fin d'année. Donc ça a forcément posé un problème pour les ascenseurs qui ont ce système d'alarme qui fonctionne avec la 2G. Mais c'est aux ascensoristes d'essayer de trouver le moyen de mettre en place un système d'alarme qui fonctionne. Vous ne pouvez pas laisser les gens bloqués dans un ascenseur, ça les traumatise.
Et sachant que les ascensoristes disent qu'ils vont être obligés de changer beaucoup d'ascenseurs pour changer ce système d'alerte.
Moi, je veux bien qu'on explique à tous les habitants qui bénéficient d'un ascenseur qu'ils vont devoir investir 300 000 euros par ascenseur.
Sur les tarifs, Noah s'emballe un peu. Changer tout un ascenseur, ça coûte plutôt entre 50 000 et 90 000 euros. Avec l'arrêt de la 2G, il faudra en effet le faire pour certains immeubles, ce qui augmentera sérieusement les charges. Mais la plupart du temps, seul le boîtier de téléalarme devra être remplacé. L'association des représentants des copropriétés fait le calcul. Il faudra aussi payer l'intervention du technicien et ensuite, chaque année, le coût de l'abonnement, qui pourrait passer de 400 à 800 euros en moyenne. Mais on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, les sociétés d'ascenseurs trouvent qu'elles manquent de temps pour remplacer les 230 000 boîtiers de téléalarme concernés d'ici à la fin de l'année. Elles demandent d'ailleurs un délai supplémentaire. Autre question, que vont devenir ces équipements obsolètes ? Frédéric Bordage est le fondateur de Green IT, un collectif d'experts de la sobriété numérique.
Les équipements qui fonctionnent aujourd'hui en 2G et qui ne fonctionneront plus sont de nature très différente. On peut avoir des systèmes d'alarme dans des ascenseurs, des alarmes ou de la domotique au niveau des habitations, des dispositifs de santé par exemple. Quand on a un pacemaker, on a un boîtier externe qui communique avec notre pacemaker, alors pas en 2G, mais ensuite ce boîtier utilise la 2G pour envoyer des informations à des médecins. On peut aussi avoir des automates dans l'industrie, vraiment un très grand nombre d'objets connectés. Quand on regarde les chiffres, l'ARCEP a quantifié l'année dernière le nombre de cartes SIM 2G, 3G qui sont actives en France aujourd'hui est à peu près égal à celui de la population française, autour de 60 millions. On peut s'attendre à ce que sur ces 60 millions de téléphones et d'objets connectés, on ait des dizaines de millions d'équipements qui finissent au rebut à la poubelle. On va ajouter des impacts environnementaux inutilement. Donc il y a une forme d'aberration à arrêter la 2G et la 3G, notamment la 2G qui est particulièrement pratique et qui fonctionne très bien pour les téléphones portables qui permettent d'appeler et d'envoyer des SMS, et la 3G dans le cadre des objets connectés. La quantité de données que la 3G est capable de transporter est largement suffisante pour les objets connectés.
Pour ce partisan de la sobriété, il n'y a pas d'intérêt à abandonner la 2G et la 3G. Au contraire, les opérateurs de télécommunications estiment que moderniser les réseaux est inévitable.
Bonjour Romain Bonenfant, je suis directeur général de la Fédération française des télécoms. C'est l'association qui représente les opérateurs de communication électronique en France. La 2G, je le rappelle, ça a été introduit en France en 92-93, donc on est presque à 35 ans depuis le lancement. C'est une technologie qui ne fournit plus les performances attendues, et puis ça pose pas mal de problèmes de sécurité aujourd'hui chez les utilisateurs. C'est-à-dire que les réseaux 2G ont été conçus à une époque où on n'avait pas les problématiques de cybersécurité qu'on a aujourd'hui. Ce sont des réseaux qu'on peut pirater facilement. Et puis c'est également des réseaux très énergivores. Les réseaux 2G et 3G, c'est à peu près 20 à 30% de la consommation des réseaux mobiles. Donc pour toutes ces raisons, on a un intérêt à faire migrer ces technologies vers les solutions les plus récentes. Tous les pays dans le monde sont en train d'éteindre la 2G et la 3G. On a à peu près depuis une dizaine d'années 200 réseaux 2G ou 3G qui ont été éteints au travers le monde. On en a 60 qui vont être éteints dans la prochaine année. Si on regarde l'Allemagne, par exemple, les réseaux 3G ont été éteints en 2021. Aux États-Unis, on a éteint les réseaux 2G il y a plus de 8 ans. Donc tout ça, ce n'est pas une surprise, en fait. C'est une évolution bien connue des professionnels de la connectivité. Ils ont été prévenus en 2022. C'est un délai qui est tout à fait compatible avec le changement des équipements.
La 5G se développe, l'avènement de la 6G se prépare pour répondre notamment aux enjeux de l'intelligence artificielle. Entre 2020 et 2030, le trafic de données aura été multiplié par 6. Avec quels effets sur l'économie et sur l'environnement ? Raphaël Gastavi est directeur adjoint à l'ADEME, l'agence de la transition énergétique.
C'est un progrès technique, technologique d'abord. On voit que sur certaines applications, l'utilité peut être démontrée. Je pense par exemple à l'industrie, ça peut être aussi lié à des services de transport urbain. Après, on peut se dire qu'il peut y avoir des sujets autour de l'utilisation de ces réseaux qui sont peut-être équivalents à un service rendu par la 4G. Mais c'est toute la question de si on déploie un peu pour certains usages, on peut pas dire qu'on ne déploie pas du tout. Ces réseaux, en tout cas, serviront à une multiplicité d'usages pour l'ensemble de la population. Et donc revenir éventuellement sur des zones blanches ou des zones où la fibre optique n'aura pas pu se développer et pouvoir quand même donner la même qualité de service pour tous les habitants.
Et que pensez-vous des critiques sur l'impact environnemental ?
Alors la question du changement des réseaux mobiles, donc de passer de la 2G à la 3G, puis la 4G, puis la 5G aujourd'hui et puis le futur, c'est la question des impacts environnementaux du numérique dans leur globalité. Et les études qu'on a faites montrent qu'en gros, on a trois blocs d'impact. Des impacts sur les équipements liés aux équipements, des impacts liés au réseau, donc fixe et mobile, et puis les impacts liés au data center. Et les études qu'on a pu mener montrent que sur, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, au niveau français, les équipements représentent 54% des émissions de gaz à effet de serre, notamment liées à leur phase de fabrication. Les data centers représentent 42% de ces impacts environnementaux et les réseaux fixes et mobiles ne représentent que 4%. Donc passer de la 2G à la 5G, c'est pas la question du réseau qui va changer l'impact environnemental, c'est plutôt la façon dont le réseau est utilisé qui peut avoir un impact et notamment sur la phase d'usage. Et donc ce qui va s'en rapprocher le plus, c'est la question notamment des impacts liés aux data centers qui vont être mobilisés par l'utilisation des réseaux.
Les enjeux derrière la fin de la 2G. C'était le reportage d'Anaël Verzo.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et la directrice générale d'Orange et l'invité d'On n'arrête pas l'écho. Bonjour et bienvenue, Christelle Edeman.
Bonjour.
C'est vous qui impulsez le calendrier de la fin de ce réseau 2G. Si je comprends bien, c'est à partir de fin 2025, de la fin de l'année. Quel intérêt à changer ce qui marche encore ?
Alors d'abord, je rassure évidemment tous les auditeurs, on fait ça de façon concertée et bien sûr, on ne laissera personne sans ascenseur connecté. Non, ça a été dit, c'est que la 2G, elle a été déployée au début des années 90, elle tombe en panne, elle est moins sécurisée. On a besoin de la fréquence en fait pour utiliser la 4G, la 5G. On voit bien que les usages aujourd'hui, ils ont évolué. D'ailleurs, plus personne en fait, si vous êtes connecté que en 3G, les vidéos que vous recevez, l'Internet en fait ne passe plus très bien parce qu'on n'est plus du tout adapté. Donc on a besoin évidemment de moderniser, mais et puis c'est pas pour l'environnement hein, d'avoir quatre réseaux alors que finalement on n'en utilise que deux, c'est pas efficace. Donc on le fait de façon concertée. La 2G sera éteinte fin 26, la 3G fin 28, donc on a le temps et on le fera proprement.
Et concrètement, ça veut dire on enlève des antennes pour les remplacer, des antennes 2G pour les remplacer par des antennes 4G, 5G, peut-être.
Oui, 6G. Alors quand vous voyez une antenne en fait sur un toit ou sur un pylône, hein, en général c'est un petit équipement de cette antenne et en général c'est surtout la partie électronique si on garde les mêmes fréquences, donc c'est assez indolore et on garde les mêmes sites mobiles, hein, il n'y a pas d'impact de ce point de vue-là.
Bon, vous entendez les professionnels, là on avait les ascensoristes qui demandent un délai, c'est possible d'avoir un délai pour...
Alors d'abord, ces professionnels sont des clients en général, donc on les accompagne, on travaille avec eux, on se rend bien compte et d'ailleurs c'est la même chose qu'on a sur le cuivre, hein, c'est effectivement les usages professionnels qui nécessitent le plus de temps parce qu'évidemment ça nécessite de s'organiser, mais c'est pour ça que ça fait quelques années déjà qu'on travaille avec eux et qu'on se donne le temps puisqu'on parle de fin 26 et fin 28.
Le cuivre, vous avez déjà commencé à déconnecter du cuivre, à enlever du cuivre sur 161 communes, c'est ça ? Ça se passe comment ?
On l'a fait, effectivement, il y a 211 000 foyers qui n'ont plus, qui ont été coupés. Ça s'est très très bien passé. Personne ne s'est plaint, tout le monde avait été prévenu. C'est le régulateur même qui le dit que ça s'est très bien passé. Et donc on va continuer, mais c'est vrai que c'est un énorme, énorme projet.
Bon, toujours au sujet du réseau d'Orange et du calendrier, pas seulement d'Orange, le gouvernement s'est engagé à ce que tout le monde soit raccordé à la fibre fin 25.
il reste plus de 4 millions de foyers à relier. Et évidemment, ce sont les plus compliqués, vous allez me le dire, les zones rurales. Mais est-ce que vous pensez que 100% fibre en 2025, c'est encore tenable comme promesse ?
Alors déjà, aujourd'hui, on peut se féliciter parce que la France est le pays le plus fibré d'Europe. On a aujourd'hui 9 Français sur 10 sont raccordables à la fibre. Les Français ont massivement adopté la fibre, hein, puisque près de plus de 3 Français sur 4 qui ont des solutions haut débit utilisent aujourd'hui la fibre. Donc c'est un succès, la fibre. Et évidemment...
c'est le dernier kilomètre qui est dur, Christelle Hedin.
Oui, le dernier... Non, ça peut être le dernier kilomètre ou les derniers 10 mètres, hein, même,
oui, c'est
parfois.
Ça, c'est les derniers 10%.
Mais ça, donc, c'est pour ça que ça prend du temps. Après, il y a les Français qui sont éligibles à la fibre, et puis ceux qui sont effectivement raccordés. Et on voit dans certaines zones rurales, hein, où on a déployé la fibre, que parfois, finalement, bah, les Français disent non, on a des solutions mobiles qui fonctionnent bien. Donc tout ça, on le fait...
Mais 100% éligibles à la fibre, c'est ça la promesse?
Oui, mais d'ailleurs,
c'est
aujourd'hui...
c'est possible ou pas? C'est tenable ou pas fin 25?
On y arrivera. Alors après, le 100%, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, même si on prend nos réseaux 4G, hein, on est à 99,8% de couverture. Le 100%, il n'existera jamais. Mais à partir du moment où on aura atteint les taux de 96%, on est déjà... Et puis ensuite, il y a...
Parce que les maires sont inquiets, hein. Vous savez bien, les maires, je pense que ce sont oui, mais on a, grands interlocuteurs.
D'abord, et puis j'en profite d'ailleurs pour féliciter et remercier tous nos collaborateurs qui continuent à déployer la fibre, hein, et à raccorder les clients. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, Orange est encore le dernier opérateur qui continue à investir dans la fibre. Vous l'avez dit, effectivement, dans les zones rurales ou parfois dans les grandes villes, hein, parce que quand on a sur des bâtiments historiques, il faut travailler avec les architectes des bâtiments de France. Mmh. On a voilà, des contraintes, mais on a l'habitude de le gérer. Ça prend un peu plus de temps, mais on avance.
Bon, j'entends que fin 2025, pas loin de 100%, vous y croyez encore?
Nous, on a pris des engagements, on les tiendra.
La grande nouveauté sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, ça n'est pas la 5G, ça n'est pas la fibre, c'est l'intelligence artificielle. Hier, on a eu cette étude Médiamétrie. En décembre, un jeune de 15-24 ans sur 2, c'est-à-dire la moitié des jeunes de 15-24, a utilisé une IA conversationnelle genre ChatGPT, et un Français sur 5, tous âges confondus. Christelle Hedin, est-ce que vous êtes surprise par la vitesse à laquelle cette IA se met dans nos usages?
Alors c'est vrai que c'est une des adoptions les plus rapides de l'histoire de la technologie. Et quand les consommateurs s'emparent de révolutions technologiques, on sait que ça veut dire que ça va être la pression sur les entreprises, sur les usages, et que ça va aller très très vite. Puisque ça veut dire que les salariés de toutes les entreprises, ils sont d'abord des consommateurs. Et donc effectivement, ça va aller très très vite. Alors, ça va à la fois très vite et en même temps, on est au tout début d'une vraie révolution technologique. L'IA... c'est de la même ampleur que l'électricité ou le téléphone. Et c'est vrai que, alors ça peut faire peur, mais on imagine des usages. Imaginez demain une personne malvoyante qui a des lunettes connectées, qui observe l'environnement et qui lui traduise en temps réel par la voix. Ce qu'on peut voir. Voilà, il y a plein d'usages.
Et ça, c'est quand, par exemple, sur les usages?
Ça, c'est déjà des choses sur lesquelles on travaille avec des acteurs, les cas d'usage existent. Ensuite, ça pose toute la question des réseaux, ça pose la question évidemment des modèles, ça pose la question, il y a des questions d'éthique aussi, de vie privée, de protection de la vie privée. Donc, c'est tous les sujets qui ont été abordés d'ailleurs cette semaine lors du sommet de l'IA.
Alors, justement, est-ce que vous pensez que vous y étiez, hein, vous étiez au Grand Palais, vous étiez au dîner de l'Élysée, vous étiez à Station F. Est-ce que il y a des critiques qui disent, OK, c'est bon, on a parlé des contrats, on a parlé des usages merveilleux de l'IA. Il y a des trucs qui ont été laissés sur le bord de la discussion. Par exemple, la démocratie, les enjeux démocratiques. Pour vous, est-ce que ce sommet a permis de dresser un vrai tableau ou est-ce qu'il y a des sujets qui ont été laissés de côté?
Alors déjà, c'est un sommet dans lequel on retrouvait toutes les grandes puissances. C'est vrai que quand on parle de la technologie, on a souvent tendance, on a vu les débats, hein, avec évidemment l'avancée fulgurante d'OpenAI, et puis est arrivé le modèle DeepSeek, les Chinois, qui ont quelque part bouleversé certaines croyances. Et là, le sommet, il était présidé par la France et l'Inde. Et le Premier ministre indien, c'était aussi une voix des pays du Sud, qui n'ont pas envie d'être laissés de côté sur la technologie. Donc ça, c'est des sujets, bien sûr, des sujets d'éthique et de démocratie. Alors, les sujets de démocratie, ils sont beaucoup liés aussi au sujet des réseaux sociaux, à la liberté d'expression, à quelle modération on doit mettre dans les médias. C'est des sujets qui sont... indépendant du sujet de l'IA. C'est des sujets évidemment très importants.
Mais sur les régulations, on a eu des divisions très fortes. On a entendu les États-Unis qui ont vraiment appelé pour arrêter de réguler en Europe, et puis on a eu la vision européenne. On voit bien qu'il y a vraiment une bataille d'idées en ce moment.
Oui, mais alors les débats ont eu lieu et au Grand Palais, hein, les voix des dirigeants politiques se sont plutôt affirmées. Hein. D'ailleurs, et la voix de l'Europe a été très ferme sur le fait que le tout technologie et quelque part le Far West ou le Wild West que certains prônent n'est pas le modèle que l'on souhaite en tout cas pour la société en Europe. Et puis il a aussi été rappelé que on est dans un monde où on est au tout début sur l'IA et donc il est faux de croire que c'est une bataille qui va se gagner entre les États-Unis et la Chine. Non, l'Europe a toute sa place. On a des champions dans la santé, on a des champions dans l'énergie.
Vous pensez
en
à
Europe.
Qui ? Il faut nous dire à chaque fois, parce que nous, on ne les voit pas.
Prenez l'exemple de la santé. Il y a énormément d'usages, ça a été rappelé pendant le sommet, hein, autour de comment on va pouvoir soigner des cancers, comment on va pouvoir affiner la recherche de molécules. Vous prenez des acteurs comme Sanofi, il y en a en France bien sûr, mais il y en a en Allemagne, il y en a en Suisse. Et ça, c'est des champions qu'on a besoin d'aider parce que pour eux, l'IA, c'est aussi un relais d'innovation. Et donc l'IA, c'est pas tant les plateformes technologiques que les usages qu'on va en faire aussi. Et donc c'est là où il faut bien se dire qu'il y a beaucoup d'acteurs, et en particulier, on pense souvent quand on parle de l'Internet, à l'Internet du consommateur, mais tout le secteur de l'Internet industriel, de ce qu'on fait des données industrielles, c'est là où l'Europe a toute sa place à jouer.
Il y a aussi l'enjeu écologique. Une requête avec une IA conversationnelle, ça consomme beaucoup plus qu'une requête sur Google. Il y a d'énormes data centers, on a parlé que de ça pendant ce sommet, qu'il faut refroidir, il faut produire plus d'électricité. Est-on certain, ou au contraire, que l'empreinte carbone de l'IA est soutenable ?
Alors, on parle souvent d'électricité, mais il y a aussi l'eau, parce que vous l'avez dit, effectivement, il faut refroidir. Nous, on est convaincus que aujourd'hui, on est au tout début, donc on parle beaucoup des gros data centers, qui sont en fait les endroits où on a des masses de données colossales et qui permettent d'entraîner des modèles géants. La réalité, c'est que l'IA, elle sera embarquée dans vos téléphones portables, elle sera embarquée dans les PC, elle sera embarquée dans les voitures, et donc elle ne se passera pas que dans les data centers. Et nous, on croit à une IA qui sera frugale, qui sera efficace.
Mais vous croyez, vous savez ? C'est-à-dire, vous avez déjà des briques qui
sait,
vous permettent
mais regardez,
de...
D'abord,
de
la dire... technologie va à une telle vitesse, regardez l'écart entre DeepSeek et puis OpenAI. Alors, une fois de plus, on est au tout début. Donc aujourd'hui, le fait que la recherche et les applications dans l'IA soient sur des cycles tellement courts fait que les choses évoluent très très vite. Et puis, il y a énormément de gens qui travaillent sur l'efficacité des modèles IA. Et donc, les enjeux, effectivement, de consommation énergétique des puces sont des enjeux clés. Mmh. Et donc, on est convaincus que les choses évolueront. Et en tout cas, nous, on travaille pour faire en sorte qu'effectivement, on crée une IA qui soit responsable, qui soit efficace.
Vous étiez, je l'ai dit, au Grand Palais, à Station Info Dîner de l'Élysée. Vous, Christelle Edeman, directrice générale d'Orange, est-ce que vous ne vous sentiez pas un peu seule ? Et je mets un E à seule. Il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, dans ce monde-là.
Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez... Alors, il y avait d'autres femmes, mais c'est vrai qu'on se sent parfois seule. Et si vous combinez IA et cybersécurité, là, c'est encore pire. Et alors, je dois dire que... il n'y a pas de fatalité, mais vraiment, il faut qu'on donne envie à nos jeunes filles d'aller dans ces métiers-là, parce qu'on ne peut pas imaginer un monde dans lequel il y a de l'IA partout qui n'a été conçu que par des hommes.
Pourquoi ?
Mais parce que c'est des modèles, on va avoir des biais dans les modèles. Si vous regardez aujourd'hui à une IA de vous projeter l'image d'un chef d'entreprise, vous aurez un homme. Voilà, or, il n'y a pas de raison, il y a aussi des femmes. Voilà, donc
enfin,
c'est...
pas tant, hein, on est là pour le dire.
Non, mais justement, il faut qu'on arrive aussi à s'assurer qu'on n'inclut pas des biais qui sont ceux qu'on peut avoir. Je rappelle d'ailleurs que c'est des biais qui sont très propres à notre environnement ici en France ou en Europe ou aux États-Unis, mais vous allez au Maroc, il y a plus de femmes dans les écoles d'ingénieurs au Maroc que d'hommes.
Dernière question, Christelle Edeman. Est-ce que vous allez mettre l'IA sur le forfait grand public ? Vous l'avez fait pour vos clients pro, gratuitement. Les autres le font gratuitement, Free et Bouygues, pour le grand public, pas vous. Est-ce que vous allez le faire ?
Nous, on ne l'a pas encore lancé, mais en tout cas, on y réfléchit. Mais on sait que nos clients n'ont pas attendu, vous l'avez rappelé. Un jeune sur deux utilise au quotidien ce type d'outils. Donc en fait, on sait que nos clients ne nous ont pas attendu pour déjà embarquer ces usages.
Christelle Edeman, la directrice générale d'Orange, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, Pierre vous a écrit. Pierre, c'est un télétravailleur et son entreprise encourage ses salariés à faire du sport. Alors, il l'a prise au mot. Il a décidé de marcher en forêt
une heure, j'adore cette question, pendant le call du lundi. Son employeur lui a dit d'arrêter ça tout de suite, qu'il pourrait lui arriver quelque chose. Est-ce que son responsable a le droit de lui imposer de rester assis derrière son poste de travail ?
Je vous comprends, Pierre, surtout si vous habitez près d'une belle forêt. En plus, c'est vrai, il est de plus en plus recommandé aux télétravailleurs de pratiquer une activité physique. Vous dites que ce call du lundi est compatible avec le fait de marcher, que la liaison est bonne, que vous n'êtes pas obligé de prendre la parole tout le temps. Mais voilà, même s'il n'existe pas de règlement écrit, votre employeur est en droit de vous demander de rester sur le lieu du télétravail. Il a une obligation de sécurité envers vous. Alors, vous n'êtes pas dans une forêt canadienne, vous risquez moins de tomber sur un ours, mais pourquoi pas un chien ou un sanglier. Vous pourriez surtout chuter ou vous faire une entorse. Au lieu de prendre un bol d'air en forêt, une option est de faire les 100 pas dans votre appartement ou dans votre jardin, si vous avez la chance d'en avoir un. Ça, l'employeur ne peut pas s'y opposer.
Sandrine, on a compris, hein, l'entreprise de Pierre, elle ne veut pas d'un accident du travail. Alors que se passe-t-il justement quand un salarié se blesse pendant le télétravail ? Non mais c'est une nouvelle question.
Eh bien, les tribunaux commencent à juger pas mal d'affaires en lien avec le télétravail et tous ne disent pas la même chose. Pendant sa pause déjeuner, une salariée chute dans les escaliers de sa maison. La cour d'appel d'Amiens considère là que l'accident du travail est présumé. À l'inverse, la même cour a jugé que se casser le coude chez soi une minute après la fin de son télétravail n'en était pas un. À Saint-Denis de la Réunion, et je vous assure, cette histoire est dingue, un salarié perd sa connexion Internet. Il sort sur le trottoir pour discuter avec le conducteur du camion qui venait de heurter le panneau téléphonique de sa rue. Sur ce, un second véhicule tire à nouveau sur les câbles et le poteau tombe sur le salarié. C'est pas fini, second coup de massue pour lui, la cour d'appel rejette sa demande de prise en charge en accident du travail. Pour elle, l'incident est intervenu sur la voie publique, en dehors du lieu de télétravail. Selon les juges, il n'était plus sous l'autorité de son employeur et personne ne l'obligeait à trouver l'origine de la panne. C'est bien sûr la Cour de cassation qui tranchera tous ces nouveaux cas, car je le rappelle, pour qu'il soit reconnu, un accident du travail doit avoir été provoqué pendant le travail ou à l'occasion du travail. Le lieu n'est pas le seul critère.
Ah, on a besoin de vous, Sandrine Foulon, dans les coulisses du monde du travail. Ma vie au boulot.